Votre intervention portait ce matin sur les investissements des pays émergents en Afrique. Vous avez parlé d'une Afrique post-coloniale, mais ne sommes-nous pas en train d'assister à une nouvelle forme de colonisation de l'Afrique, une colonisation plus déguisée?
Bien des choses que nous voyons ressemblent à des comportements néocoloniaux, évidemment, mais je n'appliquerai pas cette formule à l'Afrique actuelle, parce que d'abord elle est insultante et pour les Africains et pour les Chinois, les Brésiliens, les Indiens qui investissent là-bas. Nous sommes en présence d'un phénomène massif d'abord. Jusqu'ici, l'Afrique était le continent oublié dans les transactions mondiales. Et voilà que tout d'un coup, elle est au cœur d'opérations extrêmement importantes qui se traduisent par des échanges commerciaux accrus, donc des bénéfices pour les pays exportateurs de matières premières, forestières, minières, de moindres bénéfices pour ceux qui n'en ont pas, évidemment, mais qui se comportent, s'accompagnent aussi de risques. Dans la mesure où beaucoup de ces investissements peuvent avoir un effet d'aubaine, peuvent développer une culture de rente, et donc sans avoir de grands effets à long terme d'amélioration des conditions de vie des populations, d'amélioration de leur préparation à des responsabilités économiques, d'effets d'entraînement de l'économie locale qui est parfois étouffée par les importations venant de Chine, par exemple. Donc nous sommes en présence d'un phénomène ambivalent. Il est positif à beaucoup d'égards, il est aussi il plein de risques et donc la communauté internationale et par priorité les pays africains et les pays émergents doivent se demander comment faire pour que ce ne soit pas un feu de paille et que ce soit plutôt une occasion pour un décollage plus rapide de l'Afrique.
La Chine est aujourd'hui très critiquée par l'Europe, également par les États-Unis. On lui reproche son mode de fonctionnement, ses tentatives assez agressives de s'introduire dans certains pays africains. En même temps, est-ce que ce n'est pas un petit peu facile que les anciens colonisateurs critiquent de cette façon une pratique qu'ils ont eux-mêmes appliquée?
Alors, il est bien vrai que les partenaires traditionnels de l'Afrique, disons, doivent se méfier d'eux-mêmes, parce ils ont un double biais. Ils ont certainement, qu'ils le veuillent ou non, tendance à préserver une chasse gardée, et puis ils résistent à ce qui peut être, à ce qui est un décentrement du monde. Au cœur du monde, avec le G7, le G8, ils décidaient de l'avenir du monde. Le monde change, de nouveaux partenaires de premier plan arrivent, font mine de les ignorer, d'ignorer les règles et les principes qu'ils avaient pu établir entre eux. Et donc, il y a des phénomènes de frustration qu'il faut certainement dominer. Mais au-delà de cette frustration, il est bien vrai que cette affaire dépasse l'Afrique, dépasse les pays émergents. Il y a là un grand défi pour la communauté mondiale de s'organiser sur la base des principes de partenariat qu'elle a elle-même adoptés, notamment au moment de la conférence de Monterrey en 2002, pour que chacun acceptant les discipline d'un véritable partenariat, ce phénomène d'arrivée des capitaux chinois et émergents en Afrique soit vraiment un enrichissement de ce continent, serve la paix du monde et serve aussi des pays comme la Chine, l'Inde, qui ont évidemment besoin pour leur propre développement des matières premières provenant d'Afrique. Et donc, il faut trouver les chemins de l'intérêt mutuel. Mais on ne peut le faire qu'en dialoguant et en trouvant des lieux de rencontre multilatérales où chacun se sente chez soi et puisse négocier en toute tranquillité.
Et un des chemins, ne serait-il pas de faire participer davantage la société civile dans ces pays africains notamment?
Je crois que le partenariat tel qu'il a été défini à Monterrey n'est pas un partenariat seulement entre États. C'est un partenariat multidimensionnel dans lequel, en effet, les entreprises, les banques, les institutions financières et la société civile ont un rôle à jouer.
Quel rôle les chrétiens doivent-ils jouer aujourd'hui dans cette nouvelle organisation des échanges internationaux?
Alors, je crois que s'ils sont entrepreneurs, évidemment, ils doivent faire preuve d'un sens particulièrement aigu de la responsabilité sociale de l'entreprise. Mais pour ça, ils doivent être formés. Et un des défis dont on parle le moins souvent, mais qui est peut-être l'un des plus importants aujourd'hui, c'est d'apporter à ceux qui, dans quelques années, seront les responsables politiques ou économiques de l'Afrique et des pays les plus pauvres, les pays en développement, la formation éthique qu'ils ne reçoivent nulle part. On se plaint de la corruption. Mais est-ce qu'une des sources de la corruption ne provient pas du fait que les dirigeants de ces nouvelles entreprises, de ces pays, n'ont jamais entendu dire qu'il y avait une morale de l'entreprise, qu'il y avait une morale de la vie politique, qu'il y avait des normes morales essentielles au-delà de l'interdiction de l'adultère, du vol ou du meurtre? Eh bien, je crois que les églises et les chrétiens en général ont certainement à prendre en main comme une vraie priorité, ce problème du partage des principes éthiques qu'ils ont reçus avec ces peuples et ces leaders qui en ont besoin.
Et cette formation, elle est aussi à donner, peut-être même avant tout, aux pays développés qui, oui, jusqu'à présent, fonctionnent sur le terme du profit au détriment de cette notion d'éthique.
Alors, pas seulement. Hein. Il est bien vrai que, surtout au cours des 30 dernières années, on a vu la préoccupation de la rentabilité financière de court terme dominer toutes les autres. Mais on a vu aussi, au cours de ces mêmes années, surgir le concept de responsabilité sociale de l'entreprise, de l'entreprise citoyenne. Il faut que ces concepts-ci l'emportent sur cela. Et pour cela, en effet, il faut que nous multiplions nos efforts pour que, par exemple, l'enseignement social de l'Église soit mieux connu, pour que par tous les moyens, et en particulier, évidemment, en Afrique, et il y a à cet égard des initiatives intéressantes qui sont prises, cet enseignement soit mis à la portée beaucoup plus commodément des jeunes sortant des universités, des jeunes dirigeants, des politiques ou économiques. Sans cela, le développement sera bancal.
On en est loin et ça semble très utopique.
Non, ce n'est pas utopique, c'est un devoir que nous avons. Il y a toujours des hommes pour relever le flambeau de ce genre de défi.
Il y a quelques jours, lors de son voyage au Brésil, Benoît XVI a dénoncé les effets du marxisme et du capitalisme. Est-ce qu'on peut véritablement imaginer qu'un jour, la doctrine sociale de l'Église ou des doctrines qui s'en inspirent prennent le pas justement sur ces notions de profit et que l'on parvienne à une mondialisation, une globalisation de solidarité?
Vous savez ce que disait Jean-Paul II, n'est-ce pas? La mondialisation n'est ni bonne ni mauvaise, elle sera ce que nous en ferons. Et donc c'est notre travail à nous, laïcs chrétiens, de travailler dans cette direction. Dans les propos du Saint-Père au Brésil, j'ai retrouvé les accents de Saint-Emissimus Ennus, n'est-ce pas, montrant en effet que le monde était partagé entre deux matérialismes, le marxiste et celui de l'économie de marché réduite à elle-même. C'est à nous de travailler à introduire une dimension beaucoup plus large de la définition de l'économie, de réconcilier l'économie et la culture, et d'introduire avec la culture la dimension spirituelle dans les activités économiques. C'est le grand chantier de l'enseignement social chrétien. Il n'y a pas de raison de l'abandonner, bien au contraire.
Vous avez le sentiment que les hommes politiques sont sensibles à cette approche et à cette démarche d'un nombre de personnes qui justement veulent inverser cette tendance profit éthique?
Beaucoup plus qu'on ne le croit, et pas seulement en Europe, bien évidemment, partout. Je suis frappé du nombre de la demande qu'il y a pour un enseignement éthique sérieux. Je vous donne un exemple qui m'est tout proche. J'ai longtemps présidé les Semaines sociales de France, qui était une petite institution il y a encore quelque temps qui atteignait un millier de personnes. Et maintenant, nous refusons du monde et nous sommes passés en 4 ans de 1 000 personnes à nos assemblées annuelles à 4 000 et plus une diffusion tout à fait importante dans les villes de province de France. Ce qui veut dire qu'il y a une demande profonde là, parmi les gens qui sont engagés dans la vie économique et sociale de notre pays, pour recevoir une formation plus adaptée, plus forte, plus profonde sur précisément les aspects éthiques de l'économie, et de la vie sociale.